Bonsoir Emmanuel,
bonsoir
à tous. La Turquie, qui veut davantage de soutien en Syrie, remet en cause le pacte migratoire de 2016 avec l'Union européenne, une attitude inacceptable pour Angela Merkel. L'organisation État islamique espère tirer profit des violences interreligieuses à New Delhi. Elle s'adresse aux musulmans indiens, correspondance de Sébastien Farcy. Le Covid-19 a fait 3 morts en France et va impacter la croissance économique française. L'exécutif fait de la lutte contre le coronavirus sa priorité. Analyse politique de Stéphane Robert. Et puis les consignes sanitaires évoluent. En l'absence de symptômes, travailleurs et étudiants peuvent reprendre leurs activités. La Turquie veut obtenir une trêve en Syrie. Elle a annoncé hier une offensive contre le régime dans la région d'Idleb et veut obtenir un soutien plus important de la part de l'Union européenne. Ankara a donc accentué la pression sur l'Union en ouvrant ses frontières et le président turc affirme aujourd'hui que des millions de migrants vont se rendre en Europe. La chancelière allemande Angela Merkel a vivement réagi. Elle juge inacceptable que la Turquie fasse ainsi pression sur l'Europe sur le dos des réfugiés. Bonsoir Louise Baudet.
Bonsoir.
L'Union européenne redoute une nouvelle crise migratoire majeure du fait de la remise en cause de l'accord signé avec la Turquie en 2016, un pacte migratoire dénoncé dès l'origine par les ONG.
Oui, un troc indigne, une honte pour l'Europe. Très tôt, l'objectif de l'accord est décrié. Contre espèces sonnantes et trébuchantes, près de 6 milliards d'euros au total, la Turquie s'engage à renforcer le contrôle de ses frontières pour assécher le flux de migrants vers la Grèce. Elle s'engage aussi à récupérer ceux qui auraient passé la frontière et ne relèveraient pas du droit d'asile. Un pacte qui vise à fermer ce qui est à l'époque la première porte d'entrée vers l'Europe. En 2015, plus de 860 000 personnes arrivent en Grèce par cette route migratoire. On est alors au plus fort de la crise des réfugiés. 1 million d'entre eux sont d'abord accueillis dans l'Allemagne d'Angela Merkel, mais cette ouverture ne va pas durer. La pression politique est la plus forte et la chancelière allemande rétablit rapidement les contrôles aux frontières suivis par de nombreux pays, dont la France, au lendemain des attentats de Paris. De leur côté, la Hongrie de Viktor Orban et l'Autriche de Sébastien Kurz se targuent d'avoir coupé la route des Balkans. Sur cette même route, la Macédoine, la Serbie, la Croatie et la Slovénie ferment également leurs frontières. C'est dans ce contexte que l'UE, Allemagne en tête, entame un dialogue avec la Turquie et signe le fameux pacte le 18 mars 2016.
Pacte salué comme un tournant par la Commission européenne.
Oui, dès son entrée en vigueur, les arrivées en Grèce chutent de 97%. Résultat des efforts turcs mais aussi du blocage de la route des Balkans très dissuasif, sachant qu'au cœur de l'accord, il y a l'idée contestée que la Turquie est un pays tiers sûr, que les migrants n'y risquent rien et que grâce à l'argent de l'Europe, ils y seront bien traités. L'argent qui a été de fait au rendez-vous, il n'en va pas de même des autres promesses européennes. Les citoyens turcs ont toujours besoin d'un visa pour se rendre en Europe et aucune relance du processus d'adhésion n'est advenue.
Louise Baudet, l'afflux de migrants à la frontière gréco-turque inquiète les dirigeants européens mais aussi les ONG qui réclament le respect des droits fondamentaux des migrants. La décision de la Grèce de suspendre pendant un mois toute nouvelle demande d'asile est notamment pointée du doigt. Une décision dépourvue de base légale, estime le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Et Amnesty International aussi critique le gouvernement grec et les autres dirigeants européens, dont Emmanuel Macron. Écoutez, Rim Kadraoui, elle est chercheuse Europe à Amnesty International France.
La Turquie a donc décidé de laisser passer des personnes. Elle les empêche aussi de revenir sur le territoire turc. Elle se retrouve face aux autorités grecques qui les accueillent avec gaz lacrymogène, y compris contre des enfants, et avec une impossibilité de demander l'asile. Les annonces du Premier ministre grec hier soir, si elles sont confirmées, de suspendre les demandes d'asile pendant un mois, sont en totale contradiction avec le droit international. Le droit d'asile n'est pas dérogeable. On doit assurer en Europe l'accès à ces personnes au droit d'asile. En plus, en Grèce, il y a une loi depuis février 2020 qui permet à l'État de demander l'enregistrement des ONG sur son territoire afin de contrôler tout simplement ces actions. Et là encore, dans ce contexte particulier où des milliers de personnes sont arrivées de Turquie, des personnes en détresse, on peut penser que les autorités grecques vont être d'autant plus sévères avec les ONG sur place. Donc encore une fois, contrairement à ce qu'a dit le président français hier, ce n'est pas la frontière qu'il faut protéger, mais bien les personnes et les exilés qui sont aujourd'hui coincés entre deux pays qui les rejettent.
Rim Kadraoui d'Amnesty International France. En Inde, New Delhi se remet lentement des violences qui ont enflammé le nord-est de la capitale la semaine dernière. 46 personnes sont mortes dans ces affrontements entre hindous et musulmans. En toile de fond, il y a cette nouvelle loi sur la citoyenneté, facilitant l'attribution de la citoyenneté indienne à des réfugiés, à condition qu'ils ne soient pas musulmans. Cette stigmatisation des musulmans offre une occasion rêvée pour les terroristes internationaux. L'organisation islamique, État islamique, vient d'ailleurs de lancer un appel aux musulmans indiens, Sébastien Farcy.
On voit sur l'image un homme musulman recroquevillé au sol, entouré d'une foule enragée qui le frappe à coups de bâton. C'est l'une des photos les plus violentes des affrontements religieux de New Delhi, et l'organisation de l'État islamique vient de s'en servir pour appeler les musulmans indiens à se défendre contre le gouvernement nationaliste hindou. Daesh n'a jamais réussi à s'implanter en Inde ni à attirer beaucoup de musulmans, mais ces violences religieuses pourraient permettre de faire émerger des groupes islamistes financés par le Pakistan. C'est ce que craint Ajay Saini, directeur du Institute for Conflict Management de New Delhi.
Jusqu'à présent, les services secrets peuvent déjouer beaucoup d'attentats grâce à la coopération de la communauté musulmane, les imams, les madrassas et même les familles informent la police. Mais si ces violences continuent et que la police agit comme à Delhi, les musulmans ne vont plus coopérer et cela va créer énormément de problèmes.
Or, le gouvernement continue à envoyer des messages incendiaires à Ajay Saini.
Leur objectif est justement de diviser la société. Ils veulent protéger les musulmans comme les ennemis du pays dans le but d'attirer les votes des hindous.
Des élections régionales ont lieu dans 8 mois dans l'état du Bihar, une région qui compte beaucoup de musulmans et où le parti nationaliste hindou fera tout pour accroître cette tension religieuse.
Sébastien Farcy, correspondant de RFI et Radio France en Inde. Un rapport accuse le gouvernement chinois d'organiser le travail forcé de la minorité ouïghour au profit de grandes marques internationales. Depuis 3 ans, les autorités chinoises ont engagé une politique de répression massive et systématique contre la minorité musulmane des Ouïghours dans la région séparatiste du Xinjiang. Et cette campagne, entre guillemets, de rééducation, est entrée dans une nouvelle phase qui dépasse les frontières de la Chine, Isabelle Labéry.
Oui, après avoir passé plusieurs mois, voire plusieurs années dans les camps de rééducation du Xinjiang, officiellement qualifiés de centres de formation professionnelle, les Ouïghours sont désormais directement conduits dans des usines où leurs conditions de travail sous contrainte s'apparentent à du travail forcé. Le rapport extrêmement documenté de l'ONG australienne ASPI parle d'un vaste programme de transfert de main-d'œuvre mis sur pied par le gouvernement central. Il a identifié 27 sites situés dans 9 provinces à des milliers de kilomètres parfois du Xinjiang. Dans ces usines qui font officiellement partie des sous-traitants des plus grandes marques internationales, il y a des conditions de travail extrêmes. Dans l'une d'elles, qui fabrique chaque année près de 7 millions de paires de chaussures pour Nike, il y a des tours de guet, des barbelés. Les travailleurs ouïghours ne peuvent pas rentrer chez eux pour les vacances. Ils sont surveillés par un poste de police équipé de caméras à reconnaissance faciale. Et le soir, après l'usine, ils doivent étudier le mandarin, chanter l'hymne national chinois et suivre des cours d'éducation patriotique. Au total, 80 000 Ouïghours sont concernés par ces pratiques et plus de 80 multinationales dans le domaine du textile, des nouvelles technologies ou de l'automobile.
Isabelle Labéry. L'épidémie de nouveau coronavirus a dépassé les 3000 morts à travers le monde et le rythme de propagation s'est accéléré. La France a enregistré son 3e décès à Crépy-en-Valois dans l'Oise. L'OCDE a sérieusement revu à la baisse ses prévisions de croissance à cause du Covid-19. Dans le meilleur des cas, le PIB mondial ne devrait pas dépasser 2,4% cette année. Dans un scénario plus pessimiste, si le nouveau virus s'étendait en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, la croissance mondiale pourrait tomber à 1,5%. Et pour ce qui est de la France, Anne-Laure Jumet, l'OCDE envisage une prévision de croissance inférieure à 1%.
Oui, 0,9% de croissance, c'est l'estimation publiée ce matin par l'OCDE, première institution internationale à évaluer l'impact économique du coronavirus. Une révision à la baisse de 0,3 points par rapport à la précédente prévision publiée en novembre. La semaine dernière encore, le ministre de l'économie tablait sur un impact plus limité de 0,1 point, mais ce matin, Bruno Le Maire a reconnu que les conséquences seraient beaucoup plus significatives. Les secteurs du tourisme, des transports, du luxe et plus généralement des activités exportatrices vers la Chine sont les plus touchés. Une cellule de crise a été mise en place à Bercy pour faire le point quotidien sur les difficultés rencontrées par les entreprises, notamment celles implantées dans les territoires. Vous avez par exemple la porcelaine de Limoges, impactée par l'annulation de salons en Asie du Sud-Est où les professionnels de l'hôtellerie passent traditionnellement commande, ou encore les ostréiculteurs dans la Manche, dont les exportations vers la Chine sont à l'arrêt. Le ministère de l'économie réunit une nouvelle fois demain les fédérations professionnelles pour faire le point. Il a déjà annoncé en fin de semaine dernière un train de mesures, la prolongation notamment de dispositions déjà mises en place pendant le mouvement des Gilets jaunes, possibilité de chômage partiel, de report et d'allègement de charges. Mais la réponse doit également être concertée au plan européen et mondial. Les ministres des Finances du G7 s'entretiendront par téléphone dans la semaine pour coordonner leurs actions. Réunion également prévue mercredi des grands argentiers de la zone euro au téléphone, là aussi, en vue de limiter les déplacements.
Amen. Emmanuel Macron a modifié son agenda. Le chef de l'État a reporté deux déplacements prévus cette semaine pour se concentrer sur la gestion de la crise du coronavirus. Et il va multiplier les rencontres et visites sur ce sujet. Le message est clair, Stéphane Robert. L'exécutif veut montrer aux Français qu'il est pleinement mobilisé contre le virus.
Oui, en bousculant son agenda médiatique, Emmanuel Macron montre qu'il fait de la gestion de la crise qui s'annonce le principal objet de son agenda médiatique. Nous priorisons et nous hiérarchisons, indique l'Élysée, à partir des éléments remontés par les autorités sanitaires. En l'occurrence, les autorités sanitaires estiment qu'on n'en est qu'au tout début de la crise, que la diffusion du coronavirus au sein de la population paraît inévitable et que ça va durer au minimum plusieurs semaines. Face à cela, le chef de l'État et l'exécutif dans son ensemble entendent montrer qu'ils sont au chevet de la population. Les ministres et les conseillers ministériels ont en mémoire deux épisodes, deux exemples de ce qu'il ne faut pas faire en la matière. Le premier, c'est 2003 et la gestion de crise calamiteuse de la canicule par le gouvernement et par le ministre de la Santé de l'époque, Jean-François Mattei. Aujourd'hui, on ne connaît pas l'ampleur que pourrait prendre cette épidémie. On sait juste qu'elle va arriver. C'est une question de temps. Il convient de ne pas la négliger. La seconde référence est beaucoup plus récente. C'est la gestion de l'incendie de Lubrizol à Rouen à l'automne dernier. La communication erratique du gouvernement et des services de l'État est pour l'exécutif l'exemple de ce qu'il faut éviter. Rien n'avait été coordonné entre les ministères ni avec les autorités locales. Résultat, la population a entendu des choses incohérentes et contradictoires. La leçon de cet épisode a manifestement été retenue. On met en place une gestion de crise depuis le plus haut sommet de l'État. Enfin, il y a sans doute un troisième élément qui conduit le président de la République à bousculer ainsi son agenda. Ce sont les remontées de terrain des parlementaires dans les circonscriptions. Le week-end dernier, il n'était pas question de réforme des retraites ou d'élections municipales. Les conversations tournaient quasi exclusivement autour du coronavirus et de la possible épidémie à venir. Il y a donc une vraie préoccupation dont il faut tenir compte. Et l'inquiétude est d'autant plus grande que l'apparition du virus dans deux petites communes, Crépy en Valois dans l'Oise et la Balme de Sillingy en Haute-Savoie, montrent que la maladie peut surgir à n'importe quel moment et n'importe où sur le territoire.
Demain, deux motions de censure portant sur la réforme des retraites seront débattues à l'Assemblée. Force ouvrière vient de décider de quitter la conférence de financement et les opposants à la réforme sont appelés à manifester demain, mais dans ce contexte, ils ont un petit peu de mal à se faire entendre. Environ 2000 élèves de retour d'une zone touchée par le coronavirus n'ont pas repris l'école et des écoles ont dû fermer leurs portes dans l'Oise et le Morbihan. Le ministre de l'Éducation n'exclut pas la fermeture d'établissements scolaires au cours des prochaines semaines, mais Jean-Michel Blanquer l'assure, un dispositif d'enseignement à distance pourrait être déployé à grande échelle si nécessaire. Mis en place aujourd'hui par le ministère et le CNED, il prévoit notamment des classes virtuelles à Kim Kasmi.
Oui, pour aider concrètement, les élèves disposeront sur la plateforme du CNED de toutes les matières de la maternelle grande section au lycée, avec au préalable des tests en fonction de leur niveau, des exercices qu'ils pourront faire sur leur ordinateur, téléphone portable ou bien sur des tablettes. Quant aux enseignants, ils pourront également donner cours directement via un système de visioconférence, comme on peut l'entendre dans cette vidéo destinée à des élèves de CE2. Édouard Geffray, le directeur général de l'enseignement scolaire.
De manière générale, pour les plus petits, il faut généralement qu'il y ait un adulte qui soit avec eux, effectivement, pour l'accompagner. Pour les plus grands, en revanche, on est vraiment sur le travail en autonomie, avec ensuite l'interaction avec le professeur, y compris via la classe virtuelle, qui permet de s'assurer que le jeune a à la fois bien travaillé, enfin, au sens qu'il a bien suivi le parcours, et puis qu'il peut continuer à progresser.
Mais ce dispositif, qui a déjà servi à 2000 élèves français scolarisés en Chine, a ses limites, car en cas de propagation du virus au niveau 3, eh bien ce dispositif ne pourra marcher que pendant 4 semaines, comme nous l'explique Michel Vercheron-Biot, le directeur du CNED.
Au CNED, nous avons des contenus, hein, puisque nous scolarisons des élèves de la grande section jusqu'à la terminale, donc les contenus existent. Après, je crois que le lien avec les enseignants est fondamental et cette continuité ne pourra pas s'assurer que par des documents remis sans l'aide du professeur. Et c'est ce dispositif à repenser au bout de 4 semaines.
Quant aux enseignants, ils restent dubitatifs car pour l'instant, ils n'ont pas tous été formés et ce, malgré les tutoriels qui seront mis à leur disposition.
Face à l'évolution de la situation, les consignes sanitaires évoluent elles aussi. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir.
En l'absence de symptômes, travailleurs et étudiants sont invités à reprendre le travail. C'est aussi le cas du personnel soignant, même s'il a pu être en contact avec le virus.
Il n'est plus question de confiner les médecins qui vont bien, confirme Clémence Balic, généraliste dans un centre médical privé à Paris et adhérente au syndicat Jeunes Médecins.
Depuis hier soir, tout a changé, puisque jusqu'à hier soir, quelqu'un qui avait été en contact avec quelqu'un qui revenait d'une zone à risque devait rester confiné chez lui, et notamment nous les médecins. Sauf qu'en fait, il y a tellement de gens malades que si tous les médecins qui ont été en contact avec un patient, même qui a été retrouvé positif au coronavirus, eh bien on va dans une semaine, dans 10 jours, je ne sais pas, mais on aura quasiment plus de professionnels de santé en fait disponibles.
La consigne est donc de revenir travailler en portant un masque, comme l'illustre le cas de Mathieu Jamme, réanimateur à Poissy, mais qui a croisé jeudi dernier à l'hôpital Tenon une infirmière elle-même testée positive.
On avait discuté, on s'est fait la bise, vous voyez ce genre de choses-là. Donc il y avait eu un contact rapproché, suffisamment rapproché pour que l'ARS, après, le soir même, me dise qu'il fallait que je sois isolé et confiné chez moi et que j'aille pas bosser, quoi.
Mais comme il n'a pas développé de symptômes depuis vendredi, hier soir vers 22h, le docteur Jamme a reçu un mail du service d'hygiène de son établissement pour qu'il reprenne son poste dès ce matin, ce qui lui semble légitime.
Je vous aurais dit au mois de décembre, peut-être que vous n'aurez pas tenu le même discours au début de l'épidémie mondiale. On avait encore des incertitudes, notamment sur les taux de contagiosité, la virulence et la létalité du virus. Là, aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte que le virus est à prendre au sérieux, est probablement un peu plus grave qu'une grippe standard, mais à pas la dangerosité d'une rougeole ou d'une bactérie en l'occurrence. Donc ça me semble pas aberrant. Mais je vois pas un patient sans me laver les mains avant, après et sans porter un masque chirurgical qu'on change voilà toutes les 2 à 3 heures.
Des masques de protection obligatoires donc et qui sont disponibles en quantité suffisante dans les hôpitaux pour l'instant.
Alors comment se propage le nouveau coronavirus? Quels sont ses effets? Eh bien des scientifiques continuent de plancher sur ces questions. Ludovic Piétenu s'est rendu dans un laboratoire spécialisé. Il est installé sur une île en mer Baltique, d'où son surnom Dilovirus. C'est le seul laboratoire de ce type en Europe. Il existe depuis 1910. Reportage.
Si ce petit bout de terre est entouré de roseaux, il est aussi entièrement protégé par des grilles de fer surmontées de barbelés. L'endroit est ultra sécurisé. Au premier étage, Thomas Mettenleiter nous attend dans son vaste bureau avec une vue imprenable sur la mer Baltique.
Bonjour et bienvenue.
Ce biologiste réputé est le président de cet institut depuis 24 ans. Sollicité lors de plusieurs épidémies comme la grippe porcine en 2009 ou le SRAS, le premier coronavirus en 2002-2003, aujourd'hui il estime que nous sommes beaucoup mieux préparés pour lutter contre le Covid-19, le nouveau coronavirus.
On a reçu le virus aux alentours du 14 février, les échantillons. Venaient de Bavière où ont été diagnostiqués les premiers cas en Allemagne. On l'a d'abord multiplié pour en avoir suffisamment, puis on a commencé les tests sur un premier animal lundi dernier.
Il est l'un des rares à pouvoir tester dans un environnement protégé l'effet des virus les plus dangereux du monde sur une vingtaine d'espèces animales.
En Europe, ça ne peut se faire qu'ici et dans le monde, dans 2 autres endroits, au Canada et en Australie, si bien qu'on nous surnomme l'île de la peste ou l'île au virus ou l'île des chercheurs. On entend aussi l'île la plus dangereuse d'Allemagne ou l'Alcatraz des virus. Celui-ci, je l'aime beaucoup, car il décrit exactement ce que nous sommes. Tout ce qui est dangereux est capturé, gardé ici, et on ne le laisse pas sortir. Nous sommes bien l'Alcatraz des virus.
À l'abri derrière des portes étanches, dans des cuves d'azote liquide aux températures négatives jusqu'à moins 196 degrés, on trouve ici au total plus d'une centaine de virus.
Et il n'existe que 3 laboratoires de ce type dans le monde. Deuxième semaine d'audience dans le procès des époux Fillon qui doivent s'expliquer sur des soupçons d'emploi fictif. Après une première semaine chaotique pour la défense, François Fillon est passé à l'offensive, Antoine Marette.
C'est Pénélope Fillon qui prend la parole la première. Elle tient à apporter une précision sur l'interview donnée au Sunday Telegraph, longuement décryptée jeudi dernier. « J'ai délibérément minimisé mon rôle auprès de mon époux. Les Anglais pensaient que je pourrais avoir une influence diplomatique comme épouse du Premier ministre, mais je ne voulais pas faire comme la femme de Tony Blair. Pour le reste, Pénélope Fillon est sur la réserve et c'est son mari qui monte au créneau. On a beaucoup débattu jeudi dernier autour d'une collaboration datant de 40 ans, mais je ne crois pas que beaucoup de personnes dans cette salle seraient capables de se souvenir de ce qu'elle faisait il y a 40 ans, attaque d'emblée l'ancien député. S'ensuit une première passe d'armes entre le parquet national financier et l'avocat de Pénélope Fillon. Les procureurs souhaitent visionner l'interview du Sunday Telegraph. Maître Cornu-Gentil s'y oppose. « On perd beaucoup de temps sur quelque chose qui ne le mérite pas », affirme l'avocat qui reproche au PNF de poursuivre ce qu'il appelle le tribunal médiatique. La présidente lit les différents témoignages du dossier, souvent à charge. François Fillon les démolit méthodiquement, un à un. Les journalistes locaux qui ignorent tout de la qualité d'assistante parlementaire de Pénélope Fillon. L'une n'est arrivée dans la région qu'en 2007, l'autre est malveillant. La preuve, il a affirmé à propos de Pénélope qu'elle était, elle, une châtelaine cultivant ses roses. L'officier de police retraité des renseignements généraux qui prétend ne jamais avoir rencontré Pénélope Fillon en dehors de son rôle de femme au foyer, un ex-camarade de classe de François Fillon qui l'avait en grippe. Quant au seul conseiller municipal de Sablé interrogé, il s'agit de son opposant politique de 30 ans. Conclusion de François Fillon, Cette instruction n'est pas équilibrée. Elle n'a retenu que les témoignages qui semblent être à charge.
Antoine Marette. La Corse du Sud est placée en vigilance orange pour pluie, inondation. Demain mardi, un temps plus calme à l'est, à l'ouest des averses et le vent soufflera en rafale au sud de la Garonne. Les températures, au petit matin, il fera de 0 à 10 degrés du nord au sud. L'après-midi, 6 à 11 en général, 11 à 16 au sud de la Garonne et en bord de Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.